Joseph Kessel, moi, dans mes souvenirs d'enfance, il y avait une discipline qui n'existe peut-être plus au CE1, qui s'appelait l'autodictée. Et on nous avait donné des textes du Lion à apprendre par cœur et ensuite à recracher en arrivant à l'école. Donc j'apprenais ça comme de la poésie. Et je dois dire que dans mes souvenirs d'enfant, les photos noir et blanc du regard clair de Kessel et les photos de Clarence le Lion dans Daktari, ça se mélangeait un peu.
Parmi les grands écrivains, je privilégie ceux que j'appelle des héros plutôt que les auteurs de chefs-d'œuvre. Alors je vais dire quelque chose qui va désespérer peut-être les amateurs de Julien Gracq, mais quand je pense à ce professeur de lettres écrivant sur son petit bureau en province où il passe toute sa vie ses très beaux livres, et un Kessel qui parcourt le monde, qui a une conduite plus qu'exemplaire pendant la guerre et qui est un héros, quoi. Vive Kessel!
Vous avez vu les manuscrits de Kessel? La première page du Lion, il n'y a pas une rature, quoi. C'est-à-dire que, il écrit ça sur du papier d'hôtel, bam, Mais bon, c'est pas Proust. Il n'a pas passé sa vie entière dans une chambre à trouver que ça faisait trop de bruit et que le thé n'était pas à la bonne température. Il a tout sauté. Je dis rien contre Proust, super. Il y a une urgence, en fait, toujours chez Kessel.
La vraie question pour Kessel est de savoir où il va arriver. Et non pas, comme nous autres, comme en disait Nabokov, comme des huîtres accrochées à leur nacre natale.
S'il y a une espèce de cosmogonie, de trilogie divine du jeune ado qui veut devenir reporter et voyageur, c'est Rimbaud, Kessel, Corto Maltese, les trois qui fusionnent comme ça dans une espèce de nébuleuse magique sur le dos d'un grand cheval au galop.
On voit une photo de Kessel aujourd'hui, il n'y a quand même pas beaucoup d'écrivains qu'on reconnaît immédiatement, même 50 ans ou plus après leur mort. Il y a Beckett et Kessel en quelque sorte. Kessel, c'est l'aventurier, c'est toutes ces photographies où il est avec sa chemise, les rides... Bon, la crinière qu'on a comparée au Lion, etc. Donc il y a vraiment une représentation, une incarnation de la figure du reporter par Kessel. Il y a un mythe Kessel.
Il est là avec sa vieille saharienne, ses poches pleines de cigarettes, pleines de tabac et de fiasques d'alcool. Et puis il se promène d'un pays à l'autre, il rit, il rêve. C'est un personnage en liberté.
Si j'ai aimé et si j'aime encore aussi fort l'aventure, ce n'est pas tout à fait de ma faute.
Joseph Kessel sans frontières, une série documentaire de Romain Debecq de Lièvre et Julie Bérécy.
Kessel, quand on veut le dessiner bien, il est difficile. Déjà, moi je suis nul en ressemblance, mais par exemple, Gary, ça me vient tout de suite.
Johann Sfar, auteur de bande dessinée.
Kessel, il faut le travailler parce qu'il a beaucoup changé de forme avec l'âge, il s'est beaucoup empâté, alors il reste ce regard, il reste ce nez, mais quand on veut vraiment dessiner, ça ne suffit pas. Il y a une assurance. Il y a, alors moi qui ai cette obsession du judaïsme, il y a chez Kessel les prémices d'une réinvention de la figure du juif européen. C'est-à-dire que, après des centaines d'années pendant lesquelles les juifs ont été sommés de marcher voûtés et d'être dans une espèce de soumission, chez Kessel, il y a quelque chose de bravage. C'est-à-dire que, il a peur de rien, il va avec les truands, il est copain avec les Russes blancs. Et il y a une partie de Kessel qui est l'ancêtre de Zelensky. Il invente un guerrier juif qui, moi, m'intéresse beaucoup.
Épisode 1. Le premier tour du monde.
D'un côté, la falaise en dents de scie, de l'autre, un vide sans fond. Des ornières énormes, des quartiers de roc éboulés coupaient la voie. Les côtes, les lacets, les tournants devenaient toujours plus raides, plus difficiles et dangereux à négocier. Pour les caravaniers, les muletiers, les bergers et leurs bêtes, la fatigue, certes, était grande à cause du froid intense et de l'air raréfié. Du moins, collés comme des fils de fourmis contre la paroi de la montagne, cheminait-il sans risque.
On raconte que Joseph Kessel détestait le prénom qu'il avait reçu à sa naissance. À l'écrit, il préférait qu'on le désigne par une seule lettre, le J. À l'oral, il invitait ses amis à l'appeler Jeff. Pour la commodité, nous l'appellerons ainsi. Jeff a écrit plus de 80 livres. Il a été romancier, journaliste, acteur, scénariste, soldat et vétéran décoré de deux guerres mondiales. Jeff a foulé la terre des cinq continents et d'une bonne centaine de pays. Il a vu de loin le maréchal Pétain en 1919 et rencontré de près le général de Gaulle en 1943. Sur différentes scènes du monde, il a vu se produire Edith Piaf, Adolf Hitler et West Side Story. Dans différents bars du monde, il a bu des alcools forts avec des Cosaques de Sibérie, des truands de la pègre et la star Humphrey Bogart. Jeff a passé sa vie à la brûler. Elle commence quelque part dans un paysage de steppe, au carrefour entre l'Asie et l'Europe, sur la rivière Oural.
Je suis né en Argentine, dans la Pampa, de parents russes juifs.
Joseph Kessel, alias Jeff.
Dans une colonie, une des colonies fondées à l'époque par un philanthrope juif, et où mon père était médecin. J'ai quitté cette Pampa quand j'avais 18 mois pour aller en Russie, mais pas la Russie la plus proche, sur l'Oural, à Orenbourg. La rive droite était la Russie d'Europe et la rive gauche de l'Oural était déjà la Russie d'Asie.
Donc Joseph Kessel est le fils de Samuel Kessel, Shmuel de son vrai prénom, qui reçut une éducation juive orthodoxe.
François Heilbronn, vice-président du mémorial de la Shoah.
J'ai une photo de lui qui vient de l'album de Joseph Kessel. On y voit un homme très Troisième République avec une belle moustache à bacchante, un bouc bien allongé, une chevelure noire et drue, un nœud papillon, une redingote. C'est un bourgeois chic du début 20e siècle puisqu'il a fait ses études de médecine à Montpellier dont il devient docteur.
Et Shmuel parle l'hébreu à la yeshiva, le yiddish à la maison.
Michel Kahn, romancière, fondatrice du prix Joseph Kessel.
Et il reçoit une éducation rigide, très religieuse, parce que sa mère, aubergiste, veut en faire un rabbin comme son propre père. Mais alors, ce n'est pas du tout du goût du garçon. Alors, il apprend clandestinement, c'est une force de caractère extraordinaire, le russe, puis le grec, puis le latin, puis les mathématiques. Et à 16 ans, il part sur les routes. La France l'attire. Et arrivé à Paris, il s'inscrit à la faculté de médecine. Puis il obtiendra son diplôme à la faculté de Montpellier sous le nom de Samuel Kessel. Et c'est là qu'il rencontre et épouse la belle Raïssa, fille d'un riche marchand d'Orenbourg, russe juive comme lui et incroyante elle aussi.
Sa mère, c'est Raïssa Kessel. Là, j'ai une photo d'elle âgée, qui vient aussi de l'album de Joseph Kessel. C'est une belle femme, où on voit d'ailleurs la beauté assez slave qu'on retrouve chez Joseph Kessel et ses deux frères, Lazare et Georges. D'ailleurs, Joseph n'est pas le plus beau des trois. Lazare est vraiment le plus beau, c'était le plus beau des trois. Et Joseph était plutôt le plus moche. Bon, il était très beau, il a beaucoup de succès avec les femmes. Et donc, on voit chez Raïssa ses pommettes très hautes, ses grands yeux, ce front dégagé avec une grande crinière. La crinière de lion qu'on connaît de Kessel.
Joseph sera leur premier fils, mais cet homme, Samuel, donc, qui connaît sur le bout des doigts les textes et les traditions juives, ne lui transmet absolument rien.
Samuel Kessel accepte une mission un peu particulière, c'est d'être envoyé en Argentine, là où le baron de Hirsch finance des colonies juives pour créer une sorte d'état juif dans ces terres vierges que sont l'Argentine de l'époque. Et il va passer 3 ans là-bas. Et c'est d'ailleurs là où Joseph Kessel va naître, à Santa Clara, en Argentine.
Et puis, il va retourner en France en 1899, donc avec un petit bonhomme qui s'appelle Joseph Kessel.
Gilles Heuret, journaliste.
Qui est à deux doigts de mourir de dysenterie, d'ailleurs, pendant le voyage.
La famille Kessel, ce sont les parents et 3 fils. Joseph est l'aîné, Lazare, puis un autre qui est plus jeune, qui s'appelle Georges.
Dominique Bonnat. Écrivaine.
Ils forment un vrai foyer, un foyer où on s'aime. Le père est une figure admirable parce qu'il vient tout de même d'un ghetto misérable de Lituanie et il a fait ses études de médecine grâce à une bourse, on pourrait dire miraculeuse, qu'il a reçue. C'est un médecin des pauvres, le père Kessel. Et il adore ses fils, mais il espère bien que les fils, étant donné tous les sacrifices qu'il a fait pour lui-même, avoir un diplôme et gagner sa vie, feront des études et deviendront professeurs ou avocats, c'est le rêve de sa vie.
En 1904, la famille retourne habiter dans la maison familiale d'Orenbourg, parce que Samuel était de très mauvaise santé, il ne pouvait plus travailler. Et là, Joseph découvre qu'il y a en Russie un statut spécial pour les Juifs, et que lui, justement, il est juif. Puis il s'aperçoit qu'il y a des conversations fiévreuses qui agitent la famille. Un mot revient sans cesse, pogrom.
Et c'est juste au moment, encore une fois, il est tout bébé, mais il est déjà journaliste. Ce sont les ondes de la révolution de 1905. Et il voit notamment les pogroms qui sont organisés contre les Juifs, la violence, les Cosaques, sabre au clair, les enfants, les bébés dont on fracasse la tête contre les murs, et puis les caravanes qui viennent d'Afghanistan. Enfin voilà, il dira toujours que ça, il était tout jeune, mais c'est une atmosphère, ce sont des paysages, des bruits, du bruit de la fureur qui l'ont marqué à jamais. Et ensuite, vers 1908, ils vont vivre à Nice. Et là, à Nice, c'est intéressant parce qu'il va aller au lycée Masséna et il va être encouragé par un professeur qui s'appelle Hubert Morand, qui plus tard le mettra en relation avec le Journal des Débats pour qu'il puisse devenir journaliste.
Alors, j'ai eu la chance de grandir dans la ville de Nice et la grande figure tutélaire du lycée Masséna de Nice, c'était Joseph Kessel, c'était également Romain Gary. C'était les deux anciens élèves dont il fallait se montrer digne, enfin, on nous le répétait à longueur de temps. Ce que je savais, c'est Kessel, très jeune homme, qui arrive en France, qui se retrouve au lycée Masséna et qui embrasse la langue française avec passion. Enfin, il le parlait déjà puisqu'il était russe, mais enfin, il se retrouve jeune homme au lycée Masséna de Nice et quand l'Action française arrive, on lui dit « Mais alors, vous avez connu l'antisémitisme en France ?» Il dit « Ah, pas du tout, il y avait l'Action française au lycée Masséna, on leur cassait la gueule et c'était tout. Le vrai antisémitisme, c'était l'école maternelle en Russie où tout le monde chantait l'hymne national sauf les petits juifs et on savait qu'à la récréation, toute la classe allait nous passer dessus. »
J'ai retrouvé des carnets et surtout des contes écrits au lycée Masséna à Nice, alors qu'il n'avait pas 16 ans et 17 ans, avec ses deux frères, Georges et Lazare.
Olivier Weber, écrivain, grand reporter.
C'est sur des grandes feuilles, évidemment, et en quatre pages, en l'équivalent d'une nouvelle de 20 feuillets ou de 15 feuillets, c'est déjà magique. On sent qu'il est fait pour ça. On sent que c'est un besoin, c'est une motivation, c'est presque une vocation, c'est presque comme respirer l'air libre, c'est même pas un sacerdoce, c'est naturel.
Le Chahut ou la mort a été écrit par des poètes qui, délaissant toute routine et toute fausse honte, sans peur, ont osé écrire la vérité et attaquer la grosse administration méchante et fainéante. Le lecteur excusera les vers un peu faux ou les défauts de prosodie, mais il voudra bien se souvenir de l'âge des jeunes poètes et de leur sincérité. Leur franchise, en luttant contre la férule des professeurs, en les tournant en ridicule, pourrait leur attirer les plus gros désagréments. Ils n'y ont même pas songé. Aussi, chers lecteurs, pardonnez-nous toutes nos incorrections et sympathisez avec nous. Vive le Chahut ou la mort.
Ensuite, il remonte à Paris. Alors, il fera ses études au lycée Louis-le-Grand. Et puis après, sans grand effort, il passera une licence de lettres. Et en même temps, il veut devenir journaliste. Et puis, il va s'inscrire au conservatoire avec son frère. Il va jouer. Là encore, il découvre les grands classiques. Paris est une ville où il commence à faire un peu les 400 coups tout en étant grand adolescent. Et d'ailleurs, son père lui fera remarquer que bon, il serait peut-être temps de retourner dans les rails, quoi.
Or, les deux aînés, le troisième est trop jeune encore, les deux aînés ont vraiment un goût à la fois pour la littérature et pour le théâtre, dont le père est assez catastrophé. Et donc, quand les garçons arrivent vraiment à l'adolescence, expriment leur goût, leur volonté, leur tempérament, là, il y a des tiraillements, évidemment, à la maison, comme dans toutes les familles où les garçons n'en font qu'à leur tête.
J'ai toujours pensé à écrire, à raconter des histoires, même à être auteur dramatique. Mais avant tout, c'est le théâtre comme acteur. Alors, avec mon frère qui avait 15 mois de moins que moi, de l'âge de 12 ans, on a joué des pièces d'amateurs au lycée. Mais j'avais envie de faire du vrai théâtre, c'est-à-dire d'entrer au conservatoire et de continuer. Or, quand j'ai eu passé mon bachot, ce qui a eu lieu au mois de juin 1914, c'est-à-dire deux mois avant la Première Guerre mondiale, je me suis dit, voilà, je vais prendre des leçons de théâtre et essayer d'entrer au conservatoire.
Procure-moi du poison, Iago, dès ce soir.
Je ne veux pas avoir d'explication avec elle, de peur que son corps et sa beauté ne désarment mon âme encore une fois.
Mais il n'était pas question de demander de l'argent à mon père pour prendre ces leçons, puisqu'il était contre. Alors il fallait que je gagne cet argent. Or, j'avais eu, à Nice, où nous avions habité avant de venir à Paris, un merveilleux professeur de lettres qui s'appelait Hubert Morand et que j'ai jamais oublié. Et il donnait de temps en temps des chroniques à un journal illustre à l'époque et le plus vieux journal de France qui s'appelait le Journal des Débats. et il m'a demandé « Est-ce que vous croyez capable d'écrire un article que je pourrais le placer peut-être ?» Je suis revenu à la maison, je parlais de ça à mon père. Et alors, mon père, le journal des débats, pour lui, c'était presque déjà comme l'Académie. En fait. Et comme il recevait des journaux, la guerre était déjà dans son quatrième ou cinquième mois. Enfin. Vous savez que je suis d'origine russe, et que, alors je parlais russe avec mes parents, et j'étais bilingue complètement. Et lui, par intérêt pour la Russie, il se faisait envoyer par des gens de sa famille des journaux de Moscou. Et il m'a dit, tiens, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur la première vague de réfugiés. Et c'était la première fois que la Pologne, la Lituanie, la Russie blanche, envahie par les Allemands, les flots de population s'écoulaient vers l'Est. Alors j'ai lu cet article, en effet, qui était très bien fait, très frappant, et j'en ai fait une mouture en français. Et l'article a été pris.
Le siècle a commencé dans l'insouciance, en fait... Une époque s'achève, entraînée dans un gouffre.
Et puis la guerre arrive et à 16 ans, il veut s'engager. Alors son père lui dit « Non, 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 pas question, tu t'engageras pas. » Il est pacifiste, au sens où Jaurès était pacifiste. Il n'est pas pacifique, il est pacifiste. Et il racontera que quand Jaurès est assassiné, pendant 2 jours, il en sera malade. Alors il était jaurésien presque instinctivement, sans avoir lu tous les comptes rendus des réunions et des assemblées de la Seconde Internationale. Mais il va s'engager considérant qu'on ne peut pas ne pas y aller. C'est pas parce qu'on est un intellectuel qu'on ne doit pas aller faire la guerre. Apollinaire, pareil, il voudra rendre hommage à la façon dont la France l'a accueilli, et il considère qu'il ne peut pas ne pas y aller. Donc Kessel va s'engager à 18 ans, l'âge légal si je puis dire. Il va être versé dans un régiment d'infanterie, il va prendre des cours d'équitation, ça se passe mal, d'ailleurs Apollinaire aussi ça se passe mal, les cours d'équitation, et Kessel va être versé dans une escadrille, il va devenir aviateur.
Alors, une autre photo, là, c'est Kessel étant dans sa tenue d'aviateur, il est dans l'un des avions où il était navigateur, et en fait le navigateur était à l'arrière de l'avion, c'était des avions monomoteurs à hélice, biplace avec le pilote à l'avant, Joseph Kessel à l'arrière. Joseph Kessel devait donc lire des cartes papier, il n'y avait pas les GPS à l'époque, il n'y avait pas des écrans pour faire ça, donc il lisait des cartes papier, il essayait de diriger son pilote. Et puis on le voit aussi sur là, il avait des mitrailleuses au cas où il y avait une attaque d'avion allemand pour se défendre.
Il dut mettre la tête à l'abri dans la carlingue pour consulter le plan. Mais dès qu'il essayait de l'appliquer au paysage, il en perdait l'orientation. Comme pour chercher un appui, il regarda le capitaine, mais devant cette nuque enveloppée de fourrure et de cuir, il comprit qu'il était seul, que les 2 mètres de fuselage qui le séparaient du pilote étaient, en l'air, une infranchissable distance. Alors, il tâcha simplement de loger dans sa mémoire les formes des lieux qu'il survolait pour leur donner, à son retour, un nom et une figure.
Et donc l'aviation, pour lui, c'est une forme de liberté ? C'est une forme d'engagement et puis c'est une forme de patriotisme. C'est-à-dire que tous ces juifs russes du début du siècle qui sont arrivés en France, ils ont adhéré complètement à cet idéal républicain. Ils venaient de régions où les juifs étaient des parias, où ils étaient relégués à des rangs de seconds hommes. Ils étaient souvent victimes de pogroms, de cosaques terribles. Il arrive en France, mais comme Gary d'ailleurs un peu plus tard, il arrive en France et il découvre un pays où on est libre, où être juif ou pas juif, c'est pas un sujet, où l'intégration républicaine fonctionne à plein, où on est patriote et où on s'engage dans l'armée et on va faire son devoir et on va faire son devoir en héros.
C'était les premières armes, hein, si je puis dire, de l'aviation. Et puis au début, c'était uniquement destiné à l'observation. Et puis c'était quand même des coucous avec des élingues, des ailes en toile. C'était quand même pas extrêmement fiable. Mais il a pris le goût du risque et il a conscience qu'il fait partie d'une sorte de fraternité Et comme ce sont des escadrilles avec quand même peu d'aviateurs, c'est pas comme une compagnie de 100 personnes dans les fantassins, il y a des liens d'amitié qui se créent, bien évidemment. Et il y a un rythme de guerre différent. Et c'est une forme d'aristocratie parce qu'ils avaient des conditions quand même de vie qui étaient plus confortables que le troufion qui était dans les tranchées. Donc c'est véritablement un apprentissage. Faire la guerre, c'est un apprentissage. Et faire la guerre dans l'aviation, c'est l'apprentissage de beaucoup de choses. Comment fonctionne une mitraillette, comment on décolle un avion, où est-ce qu'il peut atterrir, dans quelles conditions, etc.
Des routes nettes comme une bande de peinture fraîche se nouaient autour des figures géométriques des champs et des bois. Les villages semblaient des osselets groupés par un cornet capricieux. Les rivières, couleuvres immobiles et bleues, dormaient entre des lignes vertes. Et ce furent les tranchées. Damiers gigantesques et fantaisistes, entrelacs de veines pâles dans un sol gris où s'enfonçait l'éperon de l'Aisne et de son canal.
Ce qui est intéressant, il y a la fameuse phrase de Kessel que tout le monde cite toujours, qui est « Ma vie est plus importante que mon œuvre, mais on a le droit d'écrire ». C'est-à-dire, en fait, n'ayez pas cette espèce de snobisme presque de la cléricature, enfin des clercs. C'est-à-dire qu'un intellectuel est quelqu'un déterré, dont la vie ne compte pas.
Alfred de Montesquieu. Grand reporter.
Voilà, Kessel dit on peut vivre très intensément, on peut croire très intensément à certains idéaux et être intelligent et écrire bien, et même si on écrit finalement parfois qu'à ses heures perdues, quoi. Et c'est vrai que Kessel se lance dans la vie, il se dit pas je vais faire un doctorat de lettres, je vais devenir prof. Il se dit je m'engage comme engagé volontaire avant d'avoir même 18 ans. Il commence brancardier et puis évidemment il est attiré vers le plus dangereux, le plus noble, le plus bravage. Tout se percole. Hein, chez... Il y a à la fois le courage, à la fois la générosité, à la fois la noblesse, à la fois je pense une forme de m'as-tu vu, et puis à la fois juste une appétence de l'aventure. Hein, et aussi il adore admirer, il adore aimer. Donc il va aimer son chef d'escadrille éperdument, comme il va aimer des héros ou des salauds d'ailleurs. Et évidemment ça participe de la guerre, parce que dans la guerre, les héros et les salauds, c'est pas forcément comme dans la vie de tous les jours, quoi. L'intérêt de la guerre, l'attirance de la guerre, notamment pour le reporter de guerre que j'ai été, c'est que la morale des bourgeois n'a plus cours, quoi. Il se passe, enfin, on est sur une échelle de valeurs tellement différente, de vie, de mort, de loyauté parfois secrète, que la morale de tous les jours et les règles de tous les jours veulent plus rien dire, quoi. S'arrêter un feu rouge veut plus rien dire, quoi.
Il y a toutefois une grande différence parmi les écrivains. Il y a ceux qui préfèrent analyser les sentiments, les pensées, qui se penchent sur la minutieuse horlogerie intérieure, tandis que les autres, auxquels je crois appartenir, aiment mieux aller chercher leur sujet, leur héros, dans le vaste monde, se mêler aux hommes d'action, décrire leurs actions et eux-mêmes se voir au milieu de ces hommes et de leurs aventures. Peut-être tant pis pour la plume, mais à coup sûr, tant mieux pour la vie.
Et il vibre d'admiration pour son capitaine, le héros Télis Vachon. Et alors ils sont à la popote et tout à coup survient une phrase malheureuse. En présence de tous les camarades de Jeff. C'est le prénom qu'il se donne, car il n'aime pas du tout celui de Joseph. Et donc, on parle d'un Français qui vient d'être condamné pour espionnage au profit de l'ennemi. Et voilà Vachon qui dit, le plus simplement, le plus légèrement du monde, tout naturel, il est juif. Et quand Jeff était arrivé à l'escadrille, il lui était pas du tout venu à l'esprit de parler de ses origines. Il se sentait parfaitement assimilé, français. Et il avouera 50 ans plus tard, « Quand j'ai entendu Vachon, j'ai cru véritablement m'évanouir de souffrance. Dès que nous fûmes seuls, je lui dis le mal qu'il m'avait fait. Sa gêne a été horrible. » Il a marmotté des excuses habituelles, je ne vous n'ai pas généralisé, il y a des juifs qui, des juifs que, etc. Mais la peine et l'humiliation affreuse de cette injustice, je ne les ai jamais oubliées complètement.
Jean,
enfin oublié de me donner le numéro de ton escadrille?
Ah oui, la 37.
Quoi? Quel numéro as-tu dit?
Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves que c'est un mauvais chiffre?
Quand son premier roman, L'équipage, paraît, c'est un succès immédiat. C'est un succès immédiat parce que la fatigue envers les romans de guerre n'est pas encore arrivée. On lit encore énormément, énormément de récits de guerre, de témoignages, de journaux, etc. Après, ça va un peu s'épuiser, hein. Mais L'équipage apparaît comme un témoignage fiable et surtout un roman avec des personnages, avec un milieu social particulier, un milieu militaire particulier. Et puis, c'est agrémenté d'un chassé-croisé amoureux. Il y a des hommes trompés, et puis il y a des hommes coupables d'avoir trahi leur copain. Donc c'est très humain, c'est très bien écrit, c'est très condensé. Et ça remporte un succès immédiat, ce qui fait dire d'ailleurs aux journalistes, que, aux critiques littéraires, que Kessel est véritablement un conteur.
Alors il y a d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant. On peut digresser dans votre émission, c'est possible, parce que je suis un fou de la digression.
Oui.
Mais je vais revenir à l'essentiel après. L'équipage, magnifiquement mis en scène par Anatole Litvak.
François Sureau, écrivain.
A quelque chose de kesselien, ce film, parce que ça a quelque chose de magique. Dans L'équipage, le rôle de Kessel dans l'aventure est tenu par Jean-Pierre Aumont. Jean-Pierre Aumont, aux deux tiers du film, se voit donner la croix de guerre, comme Kessel lui-même, à raison de ses combats dans l'aviation. Jean-Pierre Aumont, à l'époque, n'est qu'un acteur. Et des années plus tard, engagé dans la première division française libre et chauffeur de Diego Brosset, il se fera donner la croix de guerre sur le Rhin, comme si le film tiré du livre de Kessel, en fait, avait été, d'une certaine manière, une sorte de baptême dans le courage militaire. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais plus quel réalisateur américain qu'il faudra retrouver, a fait un remake de L'équipage de Litvak avec un acteur qui se fait décerner la Croix de Guerre exactement de la même manière et qui, quelques années après, à peine une année après, engagé volontaire dans les Marines, obtiendra à Guadalcanal la Navy Cross. Donc les films qui ont été tirés de L'équipage suscitent l'héroïsme des acteurs, ce que je trouve tout à fait étonnant.
Trois notes sonnées par tous les clairons d'un fond immense de la mer du Nord à la frontière suisse. Trois notes que les clairons avaient oubliées. C'est fini.
En 1918, donc la guerre de 14-18 s'achève. Aussitôt, le jour même de l'armistice, il part donc en bateau depuis Brest jusqu'à Vladivostok pour aller servir avec des combattants internationalistes, on va dire, les armées qui contre l'armée rouge de Lénine. Les armées blanches des Russes blancs.
Donc on le met avec tout son bataillon dans un bateau qui va partir aux États-Unis. Il va être le premier soldat après le triomphe à arriver aux États-Unis. Donc ils sont reçus comme des héros et ils vont dans chaque ville boire à en devenir fou et avoir des relations sexuelles en permanence. Donc ils vont, si j'étais grossier, je dirais qu'ils vont traverser les États-Unis avec leur bite. Et une fois que c'est fait, de là, on les fait passer au Japon. Alors là, on voit bien qu'il a moins de relations sexuelles, donc ça l'intéresse moins. Et de là, il se retrouve en Russie.
Et il se passe rien à Vladivostok. Il passe son temps dans les bordels, il passe son temps dans les cabarets, il passe son temps à boire, il fait très froid. Il voit à un moment dans des wagons des gens atteints du typhus, qui sont des déplacés de l'intérieur, qui fuient la révolution. Il y a des coulis chinois, c'est d'une pauvreté incroyable. Tout se mêle dans ce Vladivostok de la guerre qui n'apparaît pas, qui est la guerre des Russes blancs.
Et il y a des scènes terribles où il arrive dans une gare et il se rend compte qu'il marche sur des gens. Il y a des scènes où il essaye d'aller au bordel où se retrouvent tous les soldats du monde entier mais qui sont tellement ivres qu'ils n'arrivent même pas à danser. Il y a des petites filles malades de la tuberculose qui chantent leurs chansons au bordel. Et là, on a, un sacrilège, on a un Kessel qui est presque aussi naturaliste qu'un Isaac Babel ou presque aussi dégueulasse qu'un Louis-Ferdinand Céline, c'est-à-dire qu'il va dans les plaies. Mais ce qu'il y a de bien quand on a l'impression de connaître un écrivain, c'est de découvrir toujours des moments où on se dit, non, c'est pas du tout. En fait, il voyait ce qui était sordide.
Est-ce que je subissais l'envoûtement de l'horreur? Était-ce le besoin désespéré de me convaincre que ces morgues sur rails et ces énormes caisses à cadavres n'étaient pas vraies, ne pouvaient exister? On entendait non loin siffler des locomotives, les clameurs des gens qui prenaient d'assaut un train déjà surchargé, les cris des mouettes venus de l'océan. Et ici, les traits, le fichu de la femme étaient d'une paysanne. Elle aspirait goulûment par saccades l'air pourri par la décomposition des corps. J'ai approché ma tête de la sienne et me suis rejeté en arrière d'un seul mouvement. Le fichu, le front, les joues, les lèvres, grouillaient de poux énormes. Je n'étais que terreur, et qui n'avait rien à voir avec l'effroi qui m'avait porté jusque-là, effroi mental, refus d'un cauchemar où rien de ma propre chair n'était en jeu. C'était maintenant tout autre chose. La peur véritable. Entière, abjecte, l'ignoble tremblote pour ma chair, ma précieuse, ma pauvre, ma sale petite peau. Si un pouls, un seul pouls, me touchait, me frôlait. Un bond à la mesure de cette panique m'a lancé dehors. J'ai foncé droit devant moi, plus loin, vite, plus loin de cet iphique, de cette épidémie qui ravageait des convois entiers. On brûlait des cadavres. Pas les wagons, trop besoin des wagons. Plus loin, plus loin.
Tout de suite, ça met en musique, finalement, la mythologie... Enfin, pas la mythologie, c'est pas la mythologie, parce que c'est vrai ce qu'il raconte, quand même, en grande partie, mais je sais pas comment dire, la poétique kesselienne, quoi, presque la mystique kesselienne. On retrouve, en fait, les grands thèmes qui vont irriguer toute sa vie et qui vont aussi irriguer toute son œuvre, qui sont, bon, évidemment, le voyage, l'amitié, le grand n'importe quoi, on peut qualifier ça d'ivresse, mais dès le début, il joue sa solde. Il se bourre la gueule, la conquête sexuelle, la camaraderie farouche et méprisante vis-à-vis des règles, qui implique l'alcool, la fête jusqu'au bout de la nuit, le jeu, la drogue, tout ce qu'il faut, et aussi d'être dans des endroits inconnus ou peu connus, et frôler le danger, mais un danger avec qui on joue et avec lequel on jongle. Quand il se met à jouer avec ses cosaques extrêmement dangereux de Semenov et les différents cosaques qui sont... à la fois magnifiques et des salauds absolus, enfin des génocidaires, des tueurs, des criminels de guerre, et notamment, toujours paradoxalement, notamment extrêmement antisémites, extrêmement des champions du pogrom, quoi. Et du coup, il leur dit qu'il parle russe, il leur dit pas qu'il est juif, et il retrouve des cosaques qu'en fait, il craignait déjà petit à Orenbourg. Donc en fait, il se lie d'amitié avec, d'une certaine manière, le diable. Et il n'y a rien de plus amusant que de passer une nuit entière à jouer avec le feu, c'est-à-dire à se bourrer la gueule avec des cosaques à la fois d'une noblesse extraordinaire et qui ont les mains tachées de sang.
Et donc c'est une période très agitée, très floue, mais encore une fois c'est l'aventure. Et puis après, quand il partira, il repassera par Shanghai, là il découvrira l'opium, parce que c'est probablement quelque chose qu'il fallait qu'il essaye. Et puis il va rencontrer Sandy, donc sa femme, quoi.
Sandy, elle occupe dans l'imaginaire, je dirais, ou l'univers de Kessel, une place tout à fait particulière, puisque c'est un monde, c'est un univers, c'est une vie d'ailleurs, hein, où les femmes vont jouer un rôle extrêmement important.
Philippe Bodor, professeur à l'Université de Bordeaux.
Et Sandy, dans ce panorama-là, occupe une place tout à fait particulière, d'abord parce que c'est son premier grand amour, c'est son premier mariage, c'est sa première épouse. Et puis, elle va garder ce côté, je dirais, un petit peu d'icône, de femme un peu pure par rapport à un monde kesselien où l'impureté joue quand même un rôle très très important. Alors, pour le dire très vite au niveau des éléments biographiques, ils se rencontrent effectivement sur un bateau, dans des conditions assez romanesques, hein, puisqu'on est à Shanghai, le bateau quitte Shanghai. Alors, on l'appelle Sandy, mais si on devait l'appeler de son nom complet, on l'appellerait Nadia Alexandra Politsu Michou Nesty. Vous voyez que c'est pas facile à dire, donc elle est restée dans la légende, elle est restée Sandy. Elle est d'origine à la fois roumaine, macédonienne, grecque, turque par sa mère. C'est une famille riche et noble de Roumanie, qui, au moment de l'avancée des troupes allemandes lors de la Première Guerre mondiale, 1916, se réfugie plus à l'Est, et notamment à Moscou. Et puis là, les événements font qu'on quitte Moscou à partir de 1917 pour partir toujours vers l'Est. Et elles aussi, Sandy et sa mère, vont se retrouver au Japon et vont également vouloir regagner l'Europe en même temps que Kessel voudra regagner l'Europe aussi. Donc tout ça est assez kesselien déjà dans la rencontre. Le coup de foudre est immédiat.
Paris, 14 juillet 1919.
Où on a entendu un cri qui s'est élevé, qui partait de la porte Maillot, le défilé descendait par l'avenue de la Grande Armée, et qui a pris comme un incendie jusqu'à l'étoile, qui a couru le long des Champs-Élysées, on sentait que ça courait jusqu'à la République, et la clameur n'a pas cessé durant les heures qu'a duré le défilé. Et alors, après tout le défilé des Alliés, il y a eu un petit temps d'arrêt et on a vu apparaître vraiment un César. Pétain était d'une beauté magnifique, avec ce visage de marbre blanc et puis c'est très régulier. C'est dur. Enfin, il était vraiment très très beau, il était sur un cheval blanc. Alors là, pour employer le terme de l'époque, on a senti que c'était l'armée française, les poilus qui passaient. Il y a eu quelque chose vraiment de bouleversant. Et vraiment, je ne fais pas de littérature. Et alors, il est passé sous l'arc de triomphe. Enfin, tout ce symbole, tout ça, était, surtout pour un garçon de 21 ans, quelque chose de... comme pour tout le monde, et spécialement pour moi. Et là, j'ai connu le premier drame du reporter. Il paraissait très facile. Et puis, il fallait livrer et donner l'article, quelques heures plus tard. Et là, j'ai cru que jamais je ne pourrais le faire. Et puis... la nécessité aidant, le déclenchement s'est fait et l'être second, qui à ce moment-là entre en jeu et qui vous dicte plutôt que soi-même, s'est mis en route et je fais un article. Peu de temps après, j'ai eu un coup terrible. J'avais un frère avec qui nous avions fait du théâtre ensemble, un frère un peu plus jeune que moi, qui était la moitié de moi-même, et il est mort.
On ne peut pas comprendre l'œuvre de Kessel sans comprendre le drame qui s'est emparé de lui lorsque son petit frère Lola, Lazare, s'est suicidé, alors même qu'il venait de le voir pour un déjeuner boulevard Saint-Michel à Paris, et en rentrant dans son journal près du Louvre, le journal des débats, il apprend par le commissaire de police du 5e arrondissement que son petit frère s'est suicidé dans l'hôtel de 12 rue de la Sorbonne. Il dit « mais c'est pas possible, je viens de le voir ».
Lazare Kessel, qu'on appelait Lola en famille, s'est suicidé à l'âge de 22 ans, alors que, justement, il venait d'être père. Il venait de donner la vie à ce petit Maurice Truon, qui ne portera jamais son nom, puisqu'il est un enfant non reconnu à la naissance, et on peut dire qu'il n'a pas connu d'ailleurs son père, du moins son père biologique, comme on dit aujourd'hui. Donc Lazare Kessel était un garçon très brillant, élève au conservatoire, il voulait devenir acteur, il s'était fait remarquer dans son interprétation de Ruy Blas, il était promis au plus bel avenir, il était beau, il avait toutes les chances de son côté. Et pourtant, le drame surviendra parce que lorsque Samuel Kessel, donc le docteur Kessel, apprend que son second fils vit avec une femme mariée et qu'il avait un enfant à cette femme mariée, là, il le bannit de la maison, il le chasse de la maison. Et c'est ce drame qui... on ne sait pas si c'est cela qui va entraîner un suicide. Non, il fallait une convergence de plusieurs éléments. Mais il est certain que le suicide intervient peu de temps après, 2 ans après, sur un terrain de mésentente familiale. Donc là, pour Kessel, pour Joseph Kessel, c'est une source qui ne tarira jamais de culpabilité.
Enfin, il ne faut pas être grand clair pour voir dans l'équipage qu'il y a le récit d'une trahison. Les conséquences du traumatisme qu'a été la mort de son frère, la manière dont il se l'est attribué, surtout après la lecture du billet que son frère avait laissé sur sa table et qui était adressé à sa famille. « Vous dites que vous m'aimez, mais vous ne m'aimez pas. » Jean d'Ormesson m'a raconté il y a quelques années, avant sa mort, d'Ormesson était très lié avec Kessel, curieusement. Ils étaient ensemble à l'Académie française et Kessel allait souvent déjeuner chez lui à Neuilly. Et il m'a raconté qu'une fois... il lui avait parlé de son frère, que Kessel, vous voyez Kessel, enfin, personnage colossal comme ça, avait fondu en larmes en lui disant « je ne peux pas en parler, je ne peux encore pas en parler ». C'est quand même absolument bouleversant. Enfin, c'était cette faute-là, réelle ou imaginaire, avait très probablement orienté sa vie.
Et c'est tout le complexe du survivant, le complexe de celui qui n'a pas été à la hauteur de comprendre parmi les motivations diverses et variées, les raisons réelles du suicide. Et toute l'œuvre de Kessel se comprend sous ce côté culpabilité, ce côté fardeau sur l'épaule, ce côté Dostoïevski. Pour moi, c'est un écrivain dostoïevskien. Le côté, non pas du cliché de l'âme russe, mais le côté mélancolie, le côté de la faute sur les épaules, comme d'ailleurs Conrad a été aussi un écrivain de ce grand dedans, ce que j'appelle le grand dedans, par opposition au grand dehors de Stevenson.
«
C'est une reconnaissance entière et jusqu'à la fin de mes jours que j'aurai à un homme qui s'appelle Camille Aymard, qui était alors propriétaire de ce journal La Liberté. Et Mazereau lui ayant parlé de moi, il m'a fait venir et il m'a dit « Écoutez, j'ai appris ce qui vous est arrivé et le meilleur moyen, je crois, pour atténuer le coup, c'est de changer de climat, de changer d'atmosphère. Et voulez-vous, je fais une parenthèse, c'était l'époque où l'Irlande était en pleine guerre civile contre la Grande-Bretagne et Camille Aymard m'a dit « Allez d'abord à Londres, essayez de voir le Lord Maire de Cork et puis aller en Irlande et voilà 10 000 francs, enfin, qui était une somme considérable. »
Alors c'est la naissance du grand reportage. Mais il avait fait déjà un reportage formidable dans le journal des débats qui était le reportage sur le 14 juillet 1919. Donc là, on voit qu'il y a tout. Mais même à 15 ans, il avait aussi publié un reportage dans le journal des débats. Et il y avait tout. Il y avait cette profusion de personnages, ce rythme dans les phrases, la musicalité des phrases. Mais effectivement, l'Irlande, bon, il y va d'abord avec le cœur déchiré, puisque c'est juste après la mort de son frère. Et il y va aussi parce qu'il a besoin de bouger, quoi. Mais il prépare pas. Alors, il est content parce que c'est son premier grand reportage. C'est Aymard qui dirigeait le journal La Liberté qui lui confie ce reportage. Donc, bon, pour lui, c'est extraordinaire. Il est sur le bateau, il a de l'argent. Et au bout d'un moment, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce que je vais étudier? Qui je vais rencontrer? Il savait pas. Et donc, c'est une fois sur place que, bon, il a ce réflexe de journaliste de chercher des contacts, de discuter avec les gens. Il avait une technique qui consistait à aller dans les cafés. Parce qu'il savait qu'il y avait des gens et il disait, bon, les tournées générales. Donc, effectivement, après, il obtenait des confidences et il obtenait des contacts. Hein. En Irlande, c'est ce qui s'est passé. Il est allé devant la prison où était enfermé le lord de Cork, qui faisait la grève de la faim, et en discutant avec les gens qui étaient autour, il a obtenu des contacts de Sinn Féin, par exemple. Donc, c'était sa méthode de travail. Mais oui, c'est son premier grand reportage, et puis, à chaque fois, il est là où ça se passe. C'est-à-dire qu'il va rencontrer des leaders du Sinn Féin qui étaient pourchassés par la police britannique. Il va rencontrer d'autres journalistes. Il va assister à un procès clandestin. Donc l'Irlande a vraiment été un reportage vraiment pionnier, central.
J'ai vu des hommes livides d'angoisse. J'ai vu une usine qui employait des centaines d'ouvriers saccagée à fond. Les soldats ayant mis le feu à des matières premières valant des millions de francs. J'ai vu des jeunes filles que des voisins ont dû habiller car toute leur harde avait brûlé. J'ai vu un grand gars solide et alerte marmonner des paroles d'insensé. J'ai vu enfin un cadavre criblé de coups de baïonnette et atrocement mutilé.
Et en 1923, Sandy apprend, Kessel et Sandy apprennent qu'elle est frappée par la tuberculose et cette maladie va vraiment marquer leur mariage et les dernières années de leur mariage puisqu'elle sera contrainte à de longs séjours en sanatorium.
Chaque porc est malade, chaque porc a la fièvre. Ce souffle trop chaud qui, lorsque je respire, me gêne, m'étouffe. Ces joues qui sont violettes et qui brûlent, la tête qui est lourde, les paupières qui font mal et les artères qui frappent. Et dans les cellules, on ne sait pas si l'on souffre parce qu'il fait trop chaud ou trop froid. Quelle tristesse quand le corps est atteint si profondément, si entièrement. Quand je quitte mon lit où j'ai réussi à créer un peu de chaleur qu'il retient, étroit, les couvertures bien bordées, j'ai froid. Ma peau devient grise et grumeleuse. Corps sans vie. On dit que la douleur est la pierre de touche morale. Cela dépend. Si la souffrance attaque juste le point faible de l'homme, elle ne peut alors arriver qu'à l'aigrir, même s'il possède les plus hautes qualités morales. On s'étonne souvent que je supporte cette maladie. C'est qu'elle est tombée sur mes éléments forts, l'énergie et la patience. Et puis, sur mon besoin éperdu de sympathie, d'amour. Ce besoin a été comblé grâce à cette maladie. Le 1er juin 1928. Sandy.
Elle écouta les premiers bruits du pèlevou. La course des femmes de chambre dans les corridors, le choc des fenêtres fermées, la toux matinale. C'était la lamentable symphonie qui l'accueillait, à peine tirée des limbes de la nuit, depuis un an. Elle en imaginait sans peine la suite. Après la friction, on lui apporterait le déjeuner, puis la cure de grand air, puis la promenade parcimonieuse, puis le repas, puis les bavardages insipides, puis de nouveau la cure, le thé, la cure, le dîner, le sommeil, lent à venir, le réveil obscurci d'angoisse. Les mêmes actes aux mêmes heures, les mêmes visages, les mêmes propos, les mêmes lieux. Par quel obscur maléfice fallait-il qu'elle retrouvât encore plus restreinte, encore plus morte, l'existence de pensionnaire à laquelle l'avaient obligée des parents sans amour et dont son âme passionnée avait souffert comme d'une prison.
Serge Linkès, on est à La Rochelle, dans une pièce secrète où sont entreposés les manuscrits originaux de Joseph Kessel.
Alors voilà, c'est le coffre-fort dans lequel sont entreposés les manuscrits. Alors, manuscrits de romans, manuscrits de reportages, quelques correspondances. On n'a pas beaucoup de correspondances de Kessel, mais on a la chance d'avoir pratiquement l'intégralité de ses romans, à part quelques-uns.
Serge Linkès, maître de conférence à l'Université de La Rochelle.
Et puis, on a également, évidemment, les reportages. Des préfaces et puis des projets qui ont été abandonnés en cours de route et qui doivent encore être édités et qui vont nous demander beaucoup de travail. Comme vous voyez, il y a énormément de feuillets. Alors là, on est dans un manuscrit de jeunesse, on va dire, parce qu'on est en 1926. C'est Les Captifs. Sa femme, Sandy, est déjà hospitalisée et dans un sanatorium. Je pense qu'il a déjà compris que sa vie était en péril, hein, et il a l'idée de ce roman que certains décrivent comme un documentaire sur les sanatoriums. Ce qui n'est pas faux non plus, c'est-à-dire qu'il y a aussi cet aspect documentaire qui est cher à Kessel, c'est-à-dire que, d'ailleurs, il a un peu inventé cet esprit de documentaire qui est ni du roman, ni du reportage. Alors, ça reste un roman, évidemment. Donc, dans ce manuscrit-là, on voit bien que l'écriture se fait au fil, et ça, c'est un seul brouillon, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre, on n'a pas de premier jet et de divers brouillons qui se succèdent.
Les Captifs, quelques critiques de l'époque l'ont déjà inscrit dans ce qu'on pourrait appeler un roman de sanatorium, puisque l'action se passe dans un sanatorium et le titre « Les captifs » évoque toute cette population
poitrinaire, tous ces personnages qui font courir de grandes inquiétudes au sein des familles, notamment au moment des mariages. Est-ce qu'elles toussent ? Toujours ce soupçon d'être frappé par la tuberculose. Alors, au moment où Kessel écrit « Les captifs », il n'est pas encore le grand reporter que nous connaîtrons par la suite. Il a écrit L'Équipage, il a publié un certain nombre d'articles, de textes dans les journaux. Il a fait un premier reportage assez remarqué en Irlande. Mais je dirais que cette littérature de grand air, ou cette écriture de grand air, n'est pas encore forcément la signature de Kessel. Ça viendra plus tard. C'est vrai que Les Captifs est un roman du huis clos, et d'un huis clos collectif, qui reviendra moins par la suite dans l'œuvre de Kessel. Ce qui marquera l'écriture de Kessel et son univers romanesque, ce seront plutôt les grands espaces.
Dans cette fin des années 20, début des années 30, Joseph Kessel fréquente de nombreux cabarets, de nombreux lupanards, dit-il lui-même, dans lesquels il croise de nombreux Russes, hein, puisque toute la thématique de l'immigration russe est fondamentale chez lui.
Marie-Astrid Charlier, maîtresse de conférence à l'Université de Montpellier.
Et il la cherche, hein, dans sa vie réelle, si je puis dire. Et ce sont des personnages hauts en couleur dont il va faire le portrait de manière assez récurrente, à la fois dans ses reportages et dans ses fictions.
Il faut vous dire que c'était l'époque de la première vague, la grande vague d'émigration russe vers l'Europe occidentale. Et Paris était devenue la capitale des émigrés russes. Cela se traduisait sur un certain plan par l'implantation à Montmartre de 20 boîtes russes, différents degrés de luxe. Et tout le long de la rue Pigalle, il y avait des merveilleux cosaques, enfin, qui faisaient semblant d'être cosaques, avec les cartouchières, avec les grands bonnets, etc., qui me fascinaient, mais impossible d'entrer, parce que je n'avais pas d'argent. Et au coin de la rue de Douai, de la rue Pigalle, presque là, ça je me rappelle il y a longtemps, c'est, je vous dis, ça se passe en 22, donc près d'un demi-siècle. Une porte s'ouvre, des gens sortent, et il y a une bouffée de musique et de chant qui me replonge dans l'atmosphère de Riga, et de cet envoûtement de cigales. Je ne réfléchis pas, et j'entre. Radiguet me suit. La vedette était une femme déjà assez âgée qui s'appelait Nastia Polyakov et le chef de l'orchestre et du chœur était son frère qui s'appelait Dimitri Polyakov qui avait l'air d'une idole mongole avec le crâne tout à fait chauve, des boucles d'oreilles, un juste au corps d'un jaune criard qui jouait de la guitare. Bon, alors, nous nous asseyons. On nous sert du champagne automatiquement. Bon, enfin, on reste jusqu'à 4h du matin, 5h du matin, oubliant tout. Et comme je parlais le russe et j'accompagnais les chants et tout, inconscient complètement. Et puis arrive le moment de payer. Et on n'avait pas un sou. Ils ont vu que j'aimais ça, que c'était pas de ma faute, quoi. Et on m'a dit, vous paierez un jour.
C'est la musique déchaînée, la musique cigane, c'est une musique en pleine liberté, c'est une musique qui s'invente au fur et à mesure, qui s'improvise, et puis qui fait rire et pleurer en même temps. Il a beaucoup, beaucoup développé ce folklore, on peut dire, russe, enfin, le chauffeur de taxi qui est un ancien prince russe, la musique cigane qui ne cesse jamais dans l'univers de Kessel. C'est presque un ADN pour Kessel, cette musique.
Ce Montmartre, finalement, de Kessel, c'est pas tant des rues, parce que finalement, l'espace urbain, à proprement parler, les déambulations, etc., ne sont pas vraiment ce qui l'intéresse en premier lieu, mais ce sont surtout, précisément, des lieux fermés, où l'on chante, où l'on boit, où l'on se raconte des histoires, où des portraits émergent et se dessinent petit à petit. Donc le Montmartre de Kessel, c'est un Montmartre clos et un Montmartre nocturne. Je crois que vraiment les deux éléments importants chez lui, c'est le Montmartre de la nuit, d'une part, et le Montmartre fermé, reclus, d'autre part. Ce qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler d'autres lieux, en fait, non pas de la capitale, mais du monde entier. C'est-à-dire que lorsque Kessel voyage, il raconte dans ses récits, aussi bien encore une fois journalistiques que romanesques, des lieux dans lesquels il entre pour la nuit, où il fait la fête, avec la présence des femmes, qui chantent notamment, de prostituées, etc. Donc on a une sorte de retour assez caractéristique chez lui, où Montmartre, finalement, se transpose dans d'autres textes, aussi bien en Syrie qu'en Russie, qu'en Chine, à Shanghai, etc. Donc vraiment, ce Montmartre de Kessel est plus un Montmartre intériorisé, fantasmé aussi, qu'un Montmartre dans lequel il déambulerait sur le mode de l'observation urbaine, comme on a pu le voir chez d'autres écrivains journalistes du passé, notamment du 19e, dont il s'inspire pourtant.
C'est un mode de vie. On boit, on fume, on prend des risques, on vit. Il est souvent sous, même s'il tenait particulièrement bien la colle. Il y a un journaliste qui raconte qu'un jour, il avait rendez-vous dans une brasserie pour une interview à 9h du matin, et il voit Kessel arriver en smoking, c'est-à-dire qu'il s'était pas couché. Il avait bu, il avait mangé, il avait festoyé, mais il était en forme, il avait quand même une résistance assez extraordinaire.
Et donc lui, l'alcool, il a su maîtriser ça, parce qu'il voulait pas être dominé par un élément ou une drogue, alors qu'il avait consommé beaucoup de cocaïne. Il avait consommé aussi de l'héroïne à un moment. Il consommait aussi de l'opium, y compris avec Cocteau, avec Raymond Radiguet, avec d'autres personnages très connus à l'époque. Mais il voulait rester maître de lui-même. Et l'alcool, dans ses soirées festives, à Vladivostok, à Paris ou ailleurs, en reportage, ça fait partie du mythe aussi. Et d'ailleurs, même en Afghanistan, il a pu trouver de l'alcool. Et à un moment, pour l'anecdote, Kessel est accueilli en Afghanistan par un noble, un seigneur pachtoun, dans sa maison, en dehors de Kaboul. Et ce seigneur, ce maître de maison, s'absente. Et Kessel boit un peu trop de whisky ce soir-là, qu'il trouve donc dans des commerces. Et il casse tout. Il casse tout dans la maison, il est pris de démence. Pas la première fois d'ailleurs, il casse le poste de télévision, qui est un des seuls postes de télévision à l'époque en Afghanistan. Le maître de maison revient le lendemain matin et Kessel est effondré. Il dit, mais je suis désolé, vous m'hébergez, mais je suis absolument désolé, je suis effondré, mais je vous paye tout, je répare tout, etc. J'ai trop bu, je suis désolé. Vous savez ce que fait le maître de maison, le seigneur Pachtoun? Il prend une boîte d'allumettes, il attend à Joseph Kessel, il dit, allez-y, vous êtes mon hôte, vous êtes mon invité, mettez le feu si vous voulez.
On a souvent de Kessel une image de légende, en fait, parce que Kessel, c'est le personnage d'aventurier, le baroudeur, le grand reporter qui va d'un pays à l'autre, qui a une réputation de fêtard, de noctambule, qui passe ses nuits, des nuits de prince dans les boîtes de nuit, qui boit beaucoup, qui aime les femmes, etc. Et c'est vrai, il est cela, Joseph Kessel, mais il est un peu plus complexe que sa légende. Et sous cette apparence de joyeux compagnon, car il est un très bon camarade pour tous ses amis, il y a un homme beaucoup plus fragile, un homme angoissé, un homme qui est nourri vraiment de culpabilité. Il y a eu la mort de Lazare, il y aura un peu plus tard la mort de sa première épouse, qui meurt très très jeune de tuberculose, Sandy. Et donc ces deux jeunes morts vont accompagner complètement Kessel. Kessel travaille, écrit avec la photo encadrée de Lazare et la photo encadrée de Sandy à côté de lui. Il garde des cheveux de sa première épouse. Il y a un côté, il y a le culte de ces deux jeunes morts. Et on voit très bien d'ailleurs dans son livre le plus autobiographique qui s'appelle « Le tour du malheur » combien finalement ont pesé sur lui les deux drames de cette jeunesse.
« Tu ne vois qu'un côté de Dostoïevski, le plus facile, dit le docteur. Tu ne te rends même pas compte qu'il est comme crucifié entre le mal et le bien et que chacun de ses personnages est seulement une partie de lui-même. Mais je veux choisir la partie qui me plaît, s'écria Richard. Je veux être Dimitri, moi. Courir la grande aventure, jouir de tout. Le vin, la fête, la musique, les femmes. Et pour exprimer sa personnalité jusqu'au bout, pour saisir entier le suc de la vie. Je dis, comme Ivan Karamazov, tout est permis.
Kessel est le premier à, d'une certaine manière, parce qu'il vient d'ailleurs et parce qu'il est venu plus tard, à débouler dans un monde où tout est possible de manière radicalement inquiétante. Ce qui fait, en fait, de lui le premier homme du XXe siècle et pas le dernier du XIXe.
Dans le prochain épisode, Jeff sera gagné par la fièvre littéraire du reportage. Nous le suivrons dans les bas-fonds de Montmartre et de Berlin, hanté par une faune de criminels, de souteneurs et de trafiquants. Avec lui, nous traverserons la mer Rouge et la Méditerranée. Nous croiserons des détectives, des esclaves modernes, Catherine Deneuve, Henri de Montfred et un ancien peintre en bâtiment nommé Adolf Hitler. C'était Joseph Kessel sans frontières, épisode 1, le premier tour du monde. Avec Gilles Ray, Alfred de Montesquieu, François Heilbronn, Johann Sfar, Olivier Weber, Dominique Bonnat, Michel Kahn, François Sureau, Serge Linkès, Marie-Astrid Charlier, Philippe Baudor, Marie-Ève Terranti, et Jean-Claude Silberstein. Les textes de Joseph Kessel sont lus par Félicien Jutner, la lettre de Sandy est lue par Juliette Roudet. Merci à l'Université de La Rochelle et à l'ensemble du groupe Kessel. Documentation, Anne-Lise Signoret, Antoine Villoz et Denis Forget. Prise de son, Laurent Macchietti, Nicolas Mathias et Yvan Turc. Mixage, Éric Boisset. Coordination, Christine Bernard. Avec la collaboration de Sacha Monoury, une série documentaire de Romain Debecq de Lièvre, réalisée par Julie Bérécy.